Radio Cité Genève.
Le grand invité.
Gilles Soulac.
On parle souvent d'accords de libre-échange qui permettent un développement, aussi bien pour les pays industrialisés que pour les pays en voie de développement. Ils ont aussi des inconvénients, et c'est le cadre d'une troisième session du groupe de travail intercontinental pour les sociétés transnationales en matière de droits de l'homme qui a eu lieu à Genève du 23 au 27 octobre. Pour en savoir un peu plus sur ce travail de conséquences négatives, de destruction, de déplacement de population, de pollution aussi environnementale ou de conditions de travail, il y a beaucoup d'exemples avec nous. Mélie Cosden, bonjour.
Bonjour.
Merci de prendre du temps. On est dans vos bureaux au CETIM, donc c'est le Centre Europe Tiers Monde. Vous travaillez depuis des années sur ces sujets. Peut-être quelques exemples, on aimerait l'entendre de votre bouche, de conséquences dramatiques pour des populations, quelquefois indigènes ou pas, à l'international et même quelquefois en Europe, de sociétés qui, avec ces accords de libre-échange depuis quelques années, voire des décennies, ne sont pas rendues coupables de quoi que ce soit la plupart du temps. Vous allez nous expliquer pourquoi, mais quelques exemples qui vont déjà nous faire réagir.
On a eu déjà l'effondrement d'un bâtiment de textile au Bangladesh qui s'appelle Rana Plaza. Là, on a vu la difficulté de monter la chaîne de responsabilité entre les sociétés transnationales et leurs sous-traitants. Un autre exemple, c'est la destruction de l'environnement avec l'extraction du pétrole en Amazonie équatoriale par Texaco Chevron, ou encore, un autre exemple, c'est la production de l'amiante par l'éternite, comme on a vu l'exemple en Italie, que ça causait des maladies à leurs travailleurs et les gens qui habitaient autour de ces fabriques.
Et encore bien d'autres, on pourrait parler d'autres structures et d'actualités, on ne va pas forcément le faire. Le problème, c'est que les victimes de ces destructions, les victimes de ces pollutions ou les victimes de ces conditions de travail n'ont pas de recours parce que ces structures multinationales ou transnationales se trouvent dans un autre pays, ils ne dépendent bien souvent pas de la législation du pays, s'il y en a une.
Pire que ça, plus compliqué que ça. Pourquoi ? Parce que avec l'offensive du capital financier, les normes internationales qui faisaient un peu garde-fou à ces entités ont été petit à peu supprimées à partir des années 1990, de sorte que ces entités, avec, comme vous avez dit, avec des accords de libre-échange, arrivent à négocier des conditions extrêmement favorables qui leur permet de faire aussi des montages juridiques extrêmement complexes entre la société mère, filiale ou sous-traitant, de sorte que il n'est pas possible de poursuivre en justice au niveau national ces entités. D'où la nécessité d'avoir un mécanisme au niveau international en cas de problème que les victimes puissent se tourner, s'adresser à ce mécanisme.
Pour vous, il faudrait un tribunal international, une justice internationale et une transparence afin que les victimes du monde entier puissent avoir un recours. C'est ça l'idée de cette session intergouvernementale sur les transnationales aujourd'hui avec des accords contraignants ?
Oui, le groupe de travail qui a été créé au sein des conseils des droits de l'homme de l'ONU est chargé d'élaborer un traité qui surveillerait les agissements nuisibles de sociétés transnationales, comme on vient de dire, sur les droits humains, sur l'environnement ou sur le travail.
Un tribunal qui serait civil, qui serait aussi pénal, ça veut dire qu'il peut y avoir crime d'une société, ça n'existait pas forcément, on imagine qu'une société ou une entreprise ne commette pas de crime, et administratif, alors là c'est total.
Oui, l'idée est à la fois sur le plan administratif, civil et pénal, de pouvoir poursuivre en justice, non seulement l'entité en tant que telle, qu'on appelle dans le jargon personne morale, mais aussi leurs dirigeants, c'est-à-dire les personnes physiques, de sorte que ces personnes se rendent compte que ce qu'elles font donc, n'est pas tolérable de nos jours.
Alors, vous essayez d'élaborer un traité, c'est 5 jours par an, c'est la troisième année. Vous étiez là du 23 au 27 octobre à Genève avec un groupe effectivement assez éclaté venant du monde entier, avec des structures et des représentants aussi du monde entier, avec des victimes aussi. 5 jours par an, ça risque de prendre un peu de temps quand même, avec aujourd'hui au sein de cette équipe comme président de ce travail, c'est l'Équateur je crois. Ça peut aller vite, mais les moyens, est-ce qu'ils sont vraiment là ?
Vous avez raison, effectivement, c'est très limité au niveau de temps de travail. Par contre, s'il y a la volonté politique s'appelle relativement vite.
S'il y a la volonté politique. Alors attendez, là je vous arrête, Mélik, parce qu'on a affaire à des grandes structures transnationales qui ont un impact quasiment politique sur les États. Donc ça va être difficile. On se rend compte aujourd'hui, et particulièrement en Europe ou aux États-Unis, ça va être difficile de remettre en question l'impunité de certaines transnationales.
Non, exact, exact. D'ailleurs, le lobby de ces entités utilise, depuis le début de ce processus, l'Union européenne en particulier, mais aussi les États-Unis, pour essayer de bloquer les travaux de ce groupe de travail. Par contre, ce qu'il faut tenir compte, il y a deux éléments importants, c'est que la plupart des États, donc les victimes se trouvent dans le Sud, en grande partie, ont compris que leur existence même est menacée. Donc, il y a des États qui ont compris ça, qu'il fallait faire quelque chose, prendre...
Quels États, par exemple, Mélik?
L'Équateur en tête et l'Afrique du Sud qui joue le leadership pour la création de ce mandat au sein du Conseil des droits de l'homme. Mais il y a pratiquement tous les pays du Sud qui sont derrière ce processus. On voit aussi la fracture nord-sud. Sur ce sujet. Donc, il y a des États qui ont très bien compris ça. Et il y a aussi une mobilisation populaire, à la fois non seulement des communautés affectées, des victimes, mais aussi des mouvements sociaux. Par exemple, notre réseau mondial, la campagne mondiale pour mettre fin à l'impunité des sociétés transnationales regroupe autour de 200 organisations réparties sur tous les continents, comprend comme mouvements sociaux des syndicats, des paysans, des femmes.
Eh bien, on suivra avec plaisir. Alors, 20 ans, et puis après, avec la chute du mur de Berlin, il y a une rupture. On espère qu'il ne va pas y avoir une nouvelle rupture. Je reprends l'éditorial de votre dernier magazine, de CETIM, donc le Centre Europe Tiers-Monde. Il n'y a pas de monde développé et de monde sous-développé, mais un seul monde mal développé. Ça représente un petit peu votre idée aujourd'hui de justice et de transparence.
Oui, exact. Exact. Donc, peut-être un autre élément, en parlant de l'Occident, peut-être les États occidentaux pensent être à l'abri du problème, mais il faut savoir que demain, ce processus est en marche. Quand on met en route donc, un mécanisme, donc, ils seront complices de violations commises par ces entités. Donc, ces États doivent faire aussi très, très attention à ce qu'elles font avec ces entités, aussi par rapport à leur population, parce qu'on a vu si on prend l'exemple de l'informatique, par exemple, des grandes boîtes informatiques, elles font quoi? Elles payent même pas leurs impôts en Europe.
Merci Mélik Özden. Je rappelle que vous êtes le directeur du Centre Europe Tiers-Monde, ici basé à Genève, que vous étiez l'un des intervenants de cette troisième session du groupe de travail intergouvernemental sur les transnationales en matière de droits humains. On va suivre effectivement ce travail, cette activité, en sachant aujourd'hui effectivement qu'il y a encore un gros travail de transparence et de justice au niveau mondial dans ce domaine.